le 7-9.
Et bienvenue sur Inter, bonjour à tous. Nous sommes le lundi 4 avril. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, des grenades dans les caves, des mines devant les portails des maisons. Témoignage dès le début de ce journal d'un habitant de Boutcha, près de Kiev. L'ONU demande une enquête sur de possibles crimes de guerre. On voit ça, Anaïs, dès le début du journal, après les autres titres.
30% d'abstention dès le premier tour. Ce serait un record pour une présidentielle. Étude pour France Inter publiée ce matin. Les profs coincés dans leur académie, une mutation sur 5 est refusée. Et puis un jeune violoncelliste, 4 mutations sur 5 pardon, sont refusées. Et puis une jeune violoncelliste qui passe de TikTok au bon vieux disque. On vous raconte tout ça à la fin du journal.
Et les invités de France Inter ce matin à 7h50 avec vous, Léa.
Deux immenses champions. Ils ont permis à la France de remporter le Grand Chelem en rugby. Ça promet pour la Coupe du Monde l'an prochain. Ils viennent nous parler du film Le Stade, un documentaire intime et inspirant sur cette nouvelle génération exceptionnelle du Stade Toulousain. Antoine Dupont et Romain Tamac seront avec nous à 7h50 et j'ai révisé mon rugby pour l'occasion avec Thomas Legrand.
À tout à l'heure, Léa, 8h20, la suite de notre série de 12 grands entretiens avec les 12 candidats à l'élection présidentielle. Ce matin, le président de la République, candidat à sa réélection, Emmanuel Macron, ami Audi. Vous aurez largement la parole dans cet entretien spécial, vous le savez. Alors j'attends vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter.
Il faudra sans doute du temps et une enquête minutieuse pour faire la lumière sur les images insoutenables tournées ce week-end dans la ville de Boutcha, près de Kiev. Des journalistes indépendants du pouvoir ukrainien ont vu et montré des corps de civils morts, certains encore sur leur vélo, abandonnés sur plusieurs centaines de mètres dans une artère de la ville. La procureure générale d'Ukraine parle de 410 corps de civils retrouvés dans les zones autour de Kiev depuis le départ des troupes russes. Thibault Lefebvre et Benjamin Thuot, vous êtes nos envoyés spéciaux à Kiev. Bonjour Thibault.
Bonjour.
Vous avez rencontré Artem, ce jeune homme a fui Boutcha le 12 mars et témoigne des horreurs qu'il y a vues.
Les yeux cernés, rougis par le manque de sommeil, la voix grave, caverneuse, par moments hésitante, qui laisse transparaître une colère contenue.
Je me sens vide et j'ai la rage.
Artem égrène lentement les atrocités commises par les soldats russes.
Il y a eu des jets de grenades dans des caves et des mines qui étaient installées devant les portails des habitations. Et en sortant de chez eux, des civils ont sauté sur ces mines.
Artem a passé 17 jours sous occupation russe jusqu'au moment où il est parti à pied avec sa sœur, sa mère et une voisine. Ils ont traversé Boutcha qui était déjà jonché de cadavres.
Et les Russes affirment que ces images de cadavres sont, je cite, une nouvelle production de Kiev pour les médias occidentaux et que pas un seul résident n'a souffert d'actions violentes pendant que Boutcha était sous son contrôle. Mais Thibault, votre voisin accuse directement les soldats russes.
Oui, des hommes, parfois très jeunes, qui pendant au moins un mois ont terrorisé une population réfugiée dans les sous-sols, les caves ou les abris de fortune.
Souvent, quand je voyais des soldats russes, ils étaient sous. Ils nous ordonnaient de creuser des trous, de nous cacher dedans parce que notre quartier allait être bombardé. Et si on ne se cachait pas, ils nous disaient que ces trous seraient nos tombes. Ils cherchaient des femmes. Je pense que c'était pour assouvir leurs désirs. C'est ce qui s'est passé et désormais le monde entier est au courant.
Artem a perdu deux amis. Il n'a en revanche aucune nouvelle d'une trentaine de connaissances de son quartier.
Thibault Lefebvre et Benjamin Thuot depuis Kiev, toujours à Boutcha. 57 corps ont été retrouvés dans une fosse commune selon les secours locaux. Le secrétaire général de l'ONU, profondément choqué, demande une enquête indépendante. Sérieuse question sur de possibles crimes de guerre, disent les Nations Unies. Et il faut conserver toutes les preuves. Un travail colossal et long, dit Eric Emeraud, gendarme et ancien enquêteur en Bosnie et au Rwanda.
Ces images, effectivement, suscitent l'horreur. C'est bien la démonstration qu'il n'y a pas de guerre sans crime de guerre. Cela dit, tous ces témoignages doivent être pris avec beaucoup de précautions, car une enquête judiciaire est constituée, finalement, d'un faisceau d'informations qui se recoupe pour tenter d'accéder à la vérité. Le mode opératoire des enquêteurs va consister à confronter les éléments de preuve sur les scènes de crime, en vérifier la viabilité. Au Rwanda, il nous arrive d'entendre jusqu'à 70 à 80 personnes, auteurs, victimes, témoins dans ce but ou dans cet objectif. Nous devons veiller donc à ne jamais nous laisser manipuler. C'est la raison pour laquelle on utilise souvent l'acronyme ABC, donc Assume Nothing, Believe Nothing, check everything. Ça veut dire ne jamais rien présupposer, ne croire en rien et tout vérifier.
Éric Aymeraud, qui a été pendant 3 ans la tête de l'Office central contre les crimes contre l'humanité, il répondait à Olivier Poujade. Dans l'est de l'Ukraine, à Kramatorsk, des centaines d'habitants ont fui hier par crainte d'une offensive russe. À Kharkiv, un quartier d'habitation à nouveau frappé cette nuit, 7 morts et plus d'une trentaine de blessés. Enfin, lui a toujours montré sa proximité avec le Kremlin. La victoire bien plus facile que prévu de Viktor Orban, 4e d'affilée pour le dirigeant nationaliste hongrois. Plus de 53% pour son parti aux législatives. Résultat arrivé dans la nuit. Nous serons à Budapest à 7h30.
Il est 7h06 et en France, le premier tour de la présidentielle, Anaïs, risque d'être marqué par une forte abstention.
Elle pourrait atteindre 30% dimanche prochain. Enquête Ipsos Sopra Steria pour France Inter. Ça voudrait dire que le record de 2002 pourrait être battu, explique Mathieu Gallard, directeur de recherche à Ipsos.
On pourrait avoir un taux de mobilisation qui sera le plus faible à un premier tour d'une élection présidentielle sous la 5e République, puisque le précédent record, c'était 28% en 2002. Alors, qui s'abstient, c'est avant tout, mais comme d'habitude, les jeunes, les catégories populaires, mais avec désormais des chiffres qui sont très impressionnants. Par exemple, on a 4 personnes de moins de 35 ans sur 10 qui nous disent que probablement, elles vont s'abstenir. Et puis, on a demandé aux sondés et aux abstentionnistes potentiels pourquoi ils s'abstiendraient. Eh bien, ils nous disent avant tout que c'est globalement parce que la campagne n'apporte aucune nouveauté. C'est toujours les mêmes discours de la part des candidats. Ils nous disent aussi que parce qu'ils ont le sentiment que les jeux sont déjà faits, c'est-à-dire une réélection de Macron est quasiment acquise d'avance. Et puis, enfin, parce que les candidats ne parlent pas assez des sujets qui les préoccupent, et notamment le pouvoir d'achat.
Mathieu Gallard d'Ipsos avec Simon Le Baron. Que feront les électeurs du Parti Socialiste? Hier après-midi au Cirque d'hiver à Paris, Anne Hidalgo a voulu les remobiliser, Antoine Gignot, en s'appuyant sur les combats historiques du PS.
Pas question de laisser partir, comme en 2017, les militants historiques du PS vers Emmanuel Macron. La première cible d'Anne Hidalgo, c'est le président de la République et son bilan.
Qui a réduit à rien l'impôt sur les grandes fortunes? C'est lui! Qui a annulé les critères de pénibilité que nous avions mis en place pour les retraites? C'est lui! Et aujourd'hui, qui promet sans nulle nécessité financière de reculer à 65 ans l'âge de la retraite?
À l'inverse, la candidate socialiste promet une augmentation des retraites et des salaires, des négociations salariales et tout un ensemble de mesures en direction des jeunes. Repas à 1 euro pour les étudiants, fin de Parcoursup, gratuité des transports. Et à ceux qui parlent de vote utile et imaginent voter pour Jean-Luc Mélenchon, elle répond:
mesurez les conséquences de cette décision. Vous voterez pour un candidat qui refuse d'aider les Ukrainiens. Un candidat qui ménage Poutine et qui soutient Maduro.
La gauche, c'est nous, conclut Anne Hidalgo, qui, tout en restant prudente,
je sais que les temps sont durs,
appelle l'ensemble des sympathisants à faire mentir les sondages.
Antoine Gignot, elle, a dénoncé la grande marche en arrière d'Emmanuel Macron et assume n'être qu'à 1% dans les sondages. Nathalie Arthaud pour Lutte Ouvrière en réunion publique au Zénith de Paris hier. J'assume de ne pas chercher à être présidente de la République, mais il faut voter pour moi pour se battre pour renverser le capitalisme, dit-elle.
Il est 7h09, le dernier des 3 rapports du GIEC, enfin prêt.
Les négociations ligne par ligne se sont terminées hier, très tard, avec 48 heures de retard, mais le rapport devrait être publié en fin de matinée comme prévu. Un texte de 3000 pages pour revoir nos modes de consommation et de production dans le transport, l'agriculture ou l'énergie. L'électricité qu'il faut économiser ce matin entre 7h et 10h. RTE demande d'éteindre les ampoules, baisser le chauffage, moins faire tourner l'électroménager. Pic de consommation attendu à cause des températures encore très basses et la production d'électricité ne suit pas. 27 réacteurs nucléaires sur 56 ne sont pas disponibles. Les mutations dans l'éducation nationale sont-elles un lointain souvenir? Le taux de mobilité des professeurs n'a jamais été aussi bas. 1% seulement ont pu bouger d'un département à un autre ou changer d'académie. 80% des demandes sont refusées. Témoignage de vie compliquée avec Sonia Princé.
Tous les lundis matins, Louise laisse sa petite fille de 4 ans en pleurs quand elle part prendre le train pour aller travailler à 200 km de chez elle. Cette professeure de français a 2 autres enfants de 8 et 10 ans et un conjoint qu'elle ne voit pas pendant la semaine. Sa demande de mutation dans l'académie de Rennes, l'une des plus convoitées, vient d'être encore refusée.
Moi, quand j'enlève vraiment tous mes frais, je vais travailler actuellement pour 600 euros par mois. Donc est-ce que 600 euros par mois, ça justifie d'être éloigné de ses enfants ? de ne pas les voir, de passer à côté de leur enfance, même si j'adore mon métier, vraiment j'adore mon métier, ça devient un choix cornélien.
Les suppressions de postes dans le second degré réduisent encore les chances de décrocher une mutation et dans le premier degré, la mobilité est aussi très faible. Coralie est professeure des écoles dans l'Orne et demandait depuis 8 ans sa mutation dans le Calvados, où son mari travaille et d'où elle est originaire. Elle vient juste de l'obtenir.
J'en ai pleuré de joie. Je pensais que ça allait être inaccessible, étant donné que les années précédentes, il y a très peu d'enseignants qui ont pu réintégrer ce département. C'est tellement plus simple et plus agréable de se retrouver à quelques kilomètres, de ne pas avoir la charge de la route et se dire « il y a encore une heure à faire ».
Depuis 8 ans, selon les écoles où elle est affectée, Coralie peut faire entre 240 et 120 km de route par jour.
Et un article détaillé sur le sujet est à retrouver sur franceinter.fr. Le frère d'Ivan Colonna en tête du cortège hier en Corse à Ajaccio. La manifestation a tourné dans la soirée à l'affrontement violent avec la police. Toujours étincelant, Kylian Mbappé, un doublé, 3 passes décisives pour Neymar et Messi. Le PSG s'impose 5-1 au Parc des Princes contre l'Orient, 30e journée de Ligue 1 de football. Et puis quand une musicienne star des réseaux sociaux en vient au bon vieux vinyle ou CD. Esther Abrami, violoncelliste classique, plus de 360 000 abonnés sur TikTok, des vidéos YouTube visionnées des millions de fois. Eh bien Stéphane Capron, elle sort son premier album, mélange de musique contemporaine et grand répertoire.
Esther Abrami est une artiste de son temps. Elle a demandé à des compositeurs d'aujourd'hui de revisiter les grands classiques sans les dénaturer, comme ce prélude de Chopin. La violoniste commençait à se sentir à l'étroit dans le format des réseaux sociaux. Le disque lui permet d'aller toucher à un public plus large.
Ça fait pas mal de temps que maintenant les gens me demandent « Alors, est-ce qu'il y a quelque part où on peut écouter votre musique ? Pas des vidéos de 15 secondes, mais des choses un petit peu plus longues. » Et puis voilà, effectivement, la qualité sonore aussi, qui est quand même du coup pas la même que sur les réseaux sociaux.
Pendant ses 15 ans d'études au conservatoire, Esther Abrami n'a pas beaucoup croisé de compositrices sur son chemin. Elle a choisi de mettre à l'honneur Clara Schumann, restée dans l'ombre de son mari.
J'ai réalisé que je n'avais jamais joué un seul morceau écrit par une femme. Ça m'a choquée et donc j'ai commencé à rechercher. Et c'était, j'ai l'impression d'être comme une architecte où en fait je découvrais tous ces morceaux magnifiques qui avaient été là mais qu'on ne connaît pas en fait. J'ai eu beaucoup de retours et j'ai vu beaucoup de gens qui m'ont envoyé des vidéos en me disant « je viens d'acheter la partition, je vais le jouer ». Donc c'était le but.
Sur l'album, figure l'idole d'Esther Abrami, Rachel Portman. Elles ont pu travailler ensemble. La compositrice oscarisée lui a spécialement arrangé la bande originale du film Chocolat.
Et voilà la musique, hein, le violoncelle d'Esther Abrami, c'est aussi sur franceinter.fr.
Merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, retour du feuilleton de la France aujourd'hui, épisode 15 sur les petites retraites en Corse.